franceinter.fr.
Bonjour à tous. À la une aujourd'hui, 900 000 malades, plus tous ceux qui les aident. Journée mondiale consacrée à Alzheimer aujourd'hui. Dans un instant, reportage sur une nouvelle thérapie, ça se passe dans le Nord. Et questions sur la recherche avec notre spécialiste Véronique Julia. Et un de chute, Hervé Mariton, la haute autorité pour la primaire de la droite, écarte sa candidature. Karine Bécard nous dira pourquoi. Calais, 10 000 migrants à répartir en France et la droite se déchire sur ce plan du gouvernement entre ceux qui craignent le développement de mini-jungles et ceux qui prône l'accueil. Nicolas Sarkozy sur le port de Calais ce matin. Reportage d'Estelle Schmitt. Écart de tarifs, mensonges sur les résultats au permis, pratiques illégales. Les auto-écoles multiplient les sorties de route. C'est une étude de l'UFC Que Choisir. Son auteur est l'invité de ce journal. Il faut plus de femmes pompiers. C'est l'un des mots d'ordre du congrès des pompiers qui se tient à Tours. Contexte terroriste oblige. Les pompiers ont plus de missions et besoin de troupes. Et les femmes sont peu nombreuses dans leur rang. Dialogue avec deux d'entre elles tout à l'heure. 15 ans et le traumatisme toujours là, 10h17 aujourd'hui, Toulouse a rendu hommage aux victimes d'AZF. La météo, bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
Très belle journée aujourd'hui.
Oui, alors il y a quand même une petite exception entre les Alpes, la Côte d'Azur, la Corse, on attend des averses et des orages. Sinon c'est bien agréable, vous le disiez, un beau soleil du sud-ouest jusqu'aux Bouches-du-Rhône. Ailleurs, retour de belles éclaircies sur le nord-ouest, Poitou-Charentes, le nord, l'Île-de-France, le nord-est et même la région Rhône-Alpes. Sur la Bretagne, ça deviendra quand même plus nuageux au fil de l'après-midi avec une petite ondée possible.
Nous sommes mercredi, jour des sorties cinéma. À la fin de ce journal, le choix d'Eva, Eva Bétan. Ce choix qui se porte sur le dernier film de Xavier Dolan. Et d'abord, puisque nous allons commencer cette édition à la page médicale, des nouvelles du malade le plus célèbre de France, Jacques Chirac. Nouvelle laconique, donnée par son gendre Frédéric Salabarou à l'agence France Presse, alors que la machine à rumeurs s'est à nouveau emballée ce matin. C'est une dépêche qui date de midi et demi. Le président Chirac est traité pour une infection pulmonaire et je veux rendre hommage à l'exceptionnelle qualité des équipes médicales. Frédéric Salabarou demande encore instamment que l'on respecte la tranquillité de l'ancien président et celle de sa famille. Message peut-être pour l'ancienne ministre Christine Boutin qui a annoncé la mort de Jacques Chirac ce matin sur Twitter. Voilà pour ce communiqué très officiel. Lequel d'entre nous n'a pas un proche touché de près ou de loin par la maladie d'Alzheimer? 900 000 personnes directement victimes de cette maladie en France aujourd'hui. Ce mercredi est la 21e journée mondiale Alzheimer. Nous ferons le point avec Véronique Julia dans un instant sur les espoirs et les impasses dans la recherche. D'abord, gros plan sur une nouvelle forme de thérapie. La thérapie du voyage. C'est une technique inventée en Italie, expérimentée également en Suisse et qui va être appliquée pour la première fois en France. Direction Valenciennes, la maison de retraite Notre-Dame de la Treille a installé dans ses locaux une gare virtuelle qui entrera en fonctionnement début octobre. Parmi les caractéristiques des malades d'Alzheimer, le besoin de marcher en permanence. Certains parcourent jusqu'à 10 km par jour. C'est souvent à cause de cela que se produisent les fugues. Alors pour éviter les fugues, pour éviter l'épuisement des malades, il y a donc cette thérapie. Ils entrent dans une pièce décorée comme une gare. Ils pénètrent dans un faux train et sur un écran défilent des images de paysages. Reportage Cécile Bidot.
Sur la porte grise, le mot « gare » est inscrit en grand. On pousse la porte et derrière, on se croirait dans un décor de film. Un faux panneau d'affichage avec des trains annoncés pour Nantes, Nice ou Lens. Un banc pour patienter, un guichet, une horloge et un wagon dans lequel on rentre. Quatre vrais sièges de train sur lesquels prennent place le patient et un soignant pour un voyage immobile. Sur un écran accroché au mur, des paysages défilent, campagne, ville, mer, les saisons changent au cours de l'année. Laura Drissy est l'infirmière coordinatrice de la maison de retraite.
La personne qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer est tellement angoissée que sa seule envie c'est de partir. Et donc ce dispositif lui permet de partir et de réduire effectivement toute cette déambulation qui, à un certain moment, amène une fatigue très très importante.
Parfois, les malades marchent jusqu'à 10 km par jour. Alors, les lieux ont beau être sécurisés, il y a toujours un risque de fugue. Avec ce voyage virtuel, c'est comme si cette fugue était organisée. Emmanuelle Thierry, la directrice de l'EHPAD.
Alors, c'est certainement une manière de réduire le risque. Et ça permet d'anticiper et d'accompagner cette fugue. Donc là, l'envie de partir disparaît, donc on arrive à réduire les médicaments et calmer la personne.
10 soignants de la maison de retraite ont été formés à cette thérapie du voyage. Cécile Bideau, France Bleu Nord pour France Inter.
Bonjour Véronique Julien.
Bonjour.
Spécialiste des questions de santé à France Inter, avec vous les espoirs, les impasses de la recherche. D'abord un point positif, la fréquence des cas chez les plus de 65 ans régresse dans les pays occidentaux.
Oui, c'est la conclusion de plusieurs études récentes. Attention, ça ne veut pas dire que le nombre de cas va diminuer sur les prochaines années. On sait qu'on aura de plus en plus de malades parce qu'on vit de plus en plus vieux et que la fréquence d'Alzheimer augmente avec l'âge. En revanche, on s'est rendu compte en effet que les cas de démence devenaient moins nombreux en proportion chez les plus de 65 ans. À ce stade, peu d'explications. Parmi les hypothèses, on évoque une amélioration du niveau de vie et du niveau d'éducation. Une meilleure prévention des risques cardiovasculaires pourrait aussi faire reculer l'apparition de la maladie. On parle quand même en France de plus de 2 millions de cas à l'horizon 2040.
Alors où en est la recherche? On va évidemment pas répondre en moins d'une minute à cette question, Véronique. Ce que l'on peut dire, c'est qu'on la connaît encore relativement mal, malgré toutes les études cliniques. Il y a des hypothèses pour expliquer cette maladie.
Oui, alors pour l'instant, la maladie, on le sait, reste incurable. En revanche, on pense qu'Alzheimer pourrait s'expliquer par l'accumulation de dépôts dans le cerveau, ce qu'on appelle les plaques amyloïdes. C'est là-dessus que portent beaucoup d'études cliniques en ce moment. On essaye en fait d'empêcher la formation de ces plaques et même de les détruire quand elles se sont formées. Quelques résultats prometteurs sont sortis récemment. La méthode semble efficace, surtout si on traite les patients de façon précoce, quand les symptômes sont encore légers. Attention quand même, là encore, aux faux espoirs. Ces études, même prometteuses, vont durer encore plusieurs années.
Et les grands chiffres de cette maladie d'Alzheimer en cette journée mondiale, vous les trouvez sur notre site franceinter.fr.
France Inter, le journal de 13h. Bruno Duvic.
Ils étaient 8, et bien il n'y en a plus que 7. La haute autorité pour la primaire à droite a examiné les listes de parrainage présentées par les candidats. Ça passe dans l'ordre alphabétique pour Jean-François Copé, François Fillon, Alain Juppé, Nathalie Kosciusko-Morizet, Bruno Le Maire, Jean-Frédéric Poisson et Nicolas Sarkozy. Mais, Karine Bécart,
Il en manque un.
Hervé Mariton écarté, pourquoi?
Hier soir encore, Hervé Mariton se disait raisonnablement serein, pour reprendre précisément son expression. Certes, il reconnaissait que ses parrainages nécessaires pour être qualifié à la primaire avaient été rassemblés in extremis. Son 20e parlementaire notamment avait accordé sa signature dans les toutes dernières heures. Donc ça avait été compliqué, mais il se montrait encore confiant, ses troupes aussi d'ailleurs. Alors vous imaginez bien sûr la déception ce midi dans le camp Mariton, qui ne participera pas à la primaire de la droite et du centre pour 24 parrainages manquants. 24 parrainages seulement, j'ai envie de dire. Et ce serait manifestement du côté des militants que cela aurait péché. Vous savez, tous les candidats devaient afficher le soutien de 250 élus et de 2500 adhérents du Parti des Républicains. Donc voilà, Hervé Mariton serait victime aujourd'hui de 24 militants. Certains auraient oublié de signer la feuille de parrainage, ce qui la rend invalide. D'autres ont apporté leur paraphe, mais à plusieurs candidats en même temps. Or, depuis le début, les règles sont extrêmement claires. C'est un parrainage par personne et pour un candidat seulement.
7 candidats, donc la campagne officielle va pouvoir commencer. La campagne, en fait, elle a commencé depuis longtemps. Nicolas Sarkozy était à Calais ce matin. 10 000 personnes désormais dans la jungle, selon deux associations. Le gouvernement veut répartir ces migrants sur le territoire et la droite se divise sur ce projet, entre ceux qui redoutent que de nouveaux Calais apparaissent partout et ceux qui jugent, en résumé, cette position populiste et démago. Qu'avait à dire l'ancien président, à nouveau candidat, sur ce sujet? Et qu'est-ce que les Calaisiens ont à lui dire? La visite était suivie par Estelle Schmitt, qui est avec nous.
Et Nicolas Sarkozy l'a précisé tout de suite à Calais. Il est venu voir les habitants qui souffrent, pas la jungle, dit-il, car il veut qu'elle parte. Alors face à lui, lors d'une table ronde à l'hôtel de ville, tout à l'heure, une dizaine de riverains, des chefs d'entreprise qui racontent leur quotidien, comme Sébastien Ribeiro, représentant transporteur routier.
Nous sommes sous pression d'un grand volume de migrants. Simplement, l'effet du volume a créé une situation d'insécurité, d'attaque sur nos voies, de coupeurs de route. Sur 9 mois d'activité, normalement, on n'en a eu que 3. Donc, ça crée du chômage. Ce sont des personnes, on les respecte. Mais on demande aussi le même respect qu'on devra avoir pour nous.
Nicolas Sarkozy écoute attentivement, puis déroule son programme de candidat, rétablissement des contrôles aux frontières, création de centres pour migrants en Grande-Bretagne et le démantèlement de la jungle. Mais pour lui, le problème n'est pas uniquement à Calais.
La bataille commence à Vintimille. Et je le ferai parce que je l'ai déjà fait pour Sangatte. Et personne ne peut le contester. Et vous savez la meilleure façon que j'ai de vous convaincre? Essayez-moi.
Voilà, opération séduction et promesse de Nicolas Sarkozy n'est pas le premier à les faire, ni le dernier. François Hollande lui est attendu lundi prochain à Calais.
Et on retiendra aussi de cette visite cette phrase, les Français n'ont pas vocation à être les douaniers des Anglais. Mustapha Benhadou, principal condamné au procès de la rixe de Cisco, fait appel, information qui nous est parvenue ce matin. L'animateur Jean-Marc Morandini en garde à vue, c'est l'affaire des castings controversés, le parquet de Paris, enquête pour corruption de mineurs et harcèlement sexuel. Gendarmes et pompiers, depuis les attentats, les missions se multiplient pour eux et les coutures craquent de tous les côtés. Pour les gendarmes, est-ce que ça va s'arranger dans les mois à venir? Leur patron annonce ce matin dans Le Parisien le recrutement de 2300 personnels de plus cette année. Eux aussi ont besoin de troupes supplémentaires. Les pompiers, 123e congrès national des sapeurs-pompiers à Tours. Parmi les sujets de débat, la formation du plus grand nombre de personnes possible aux gestes qui sauvent. Et autre sujet qui découle du premier, le recrutement. Vous savez peut-être que 80% des soldats du feu sont des pompiers volontaires, quasi bénévoles, et il en faut davantage, plus de jeunes et plus de femmes. Elles ne représentent que 7% des effectifs de pompiers. Femmes, pompiers, en voici deux, rencontrées par Sandrine Houdin. Elles s'appellent Aude et Laetitia.
Évidemment, tout n'est pas rose. La caserne reste un monde masculin.
Au début, c'était très dur de s'affirmer en tant que femme dans un milieu d'hommes. Vraiment, la bande de machos. Hein. Et on a encore des centres de secours où les hommes ne supportent pas de voir des femmes arriver, et encore plus quand elles commandent. Si on n'a pas de caractère, on se laisse bouffer, et puis là, c'est foutu.
Pas facile non plus de jongler entre vie privée et heures d'astreinte.
Quand le bip sonne, on est obligé de laisser les enfants à la maison et
sans savoir forcément à quelle heure vous allez rentrer.
Exactement.
Alors pourquoi? Pourquoi cet engagement? 22 ans pour l'une, 16 ans pour l'autre. Parce qu'on est femme, tout simplement.
On a sûrement ce côté maternel que les hommes ne vont pas avoir.
On a ce côté plus relationnel avec les gens, ou même avec les enfants. Ça facilite l'intervention en présence d'une femme dans une ambulance.
Pompier volontaire, c'est quoi pour vous?
La passion. Parce qu'émotionnellement, c'est très très fort quand même. Hein. On arrive sur des accidents de la route, ça touche des fois des enfants, on est maman. Il y a des fois, c'est choquant, mais... C'est une passion.
Le besoin et l'envie d'aider les autres.
Le fait qu'il y ait en proportion beaucoup moins de femmes pompiers volontaires.
C'est dommage parce que on a besoin de toute façon de personnel supplémentaire et les femmes ont beaucoup à apporter dans le milieu sapeurs-pompiers.
On y arrive. Donc si nous on y arrive, les autres aussi peuvent y arriver. Puis après c'est un vrai plaisir. Il faut surtout pas que ça s'arrête parce que on serait perdu sans nos pompiers.
Bon voilà, si vous êtes une femme et que vous voulez vous engager chez les pompiers, vous savez ce qu'il vous reste à faire. 7% de femmes chez les pompiers contre 27% dans la police, 18% dans la gendarmerie. Tous ces chiffres, vous les trouverez sur franceinter.fr. Les auto-écoles, trop de sorties de route, il faut une réforme d'ampleur. C'est une enquête que publie aujourd'hui l'association de consommateurs UFC Que Choisir. Invité de ce journal ce matin, Antoine Autier, bonjour. Vous êtes le co-auteur de cette étude. J'espère que votre micro est ouvert. Redites-moi bonjour.
Bonjour.
C'est parfait. Donc, je disais, vous êtes le co-auteur de cette étude sur les auto-écoles. Le premier constat, vous avez épluché les activités et tarifs de 1374 auto-écoles. Le premier constat, c'est les écarts pour les tarifs. Il y a des très, très grosses disparités territoriales.
Absolument. En moyenne, en France, pour se former à la conduite, il faudra débourser 1 800 euros. Mais cette moyenne cache d'énormes disparités départementales, avec des départements bon, comme Paris...
C'est ça, on se dit entre Paris et la Creuse ou la Corrèze, il n'y a rien de si choquant que ça.
Absolument, mais en fait, il y a des comparaisons qui mettent en évidence des problématiques, selon nous. Par exemple, dans les départements voisins, le Bas-Rhin et les Vosges, des écarts de tarifs en moyenne de 300 euros. Oui. Entre l'un et le département voisin de la Saône-et-Loire, c'est la même chose. Et là, finalement, il y a un réel souci qui ne s'explique pas uniquement par des coûts différents qui s'appliquent aux auto-écoles selon les départements.
On les explique comment? Il y en a qui marchent plus que d'autres?
On a regardé si la concurrence, finalement, l'intensité concurrentielle avait un impact ou non sur les tarifs. Et la réponse est oui, puisqu'on montre que plus la concurrence sera développée dans un département, plus la probabilité d'avoir des tarifs attractifs sera forte. C'est la raison pour laquelle nous demandons évidemment un développement de la concurrence favorable aux consommateurs pour leur pouvoir d'achat.
Alors, le prix, deuxième constat, Antoine Autier, certaines écoles gonflent leur taux de réussite.
Absolument.
Il y en a beaucoup ?
Énormément, près de 60%, sachant qu'il n'existe aucune obligation aujourd'hui réglementaire pesant sur les auto-écoles concernant l'affichage des taux de réussite. C'est la raison pour laquelle nos enquêteurs sont allés demander directement aux auto-écoles quels étaient les taux de réussite de ces établissements. Et des chiffres, mais vraiment tout à fait impressionnants. Il y a notamment 15% des établissements qui donnent des écarts supérieurs à 20 points par rapport au taux officiel. Un exemple symptomatique.
Taux officiel qu'on trouve en préfecture, c'est ça ?
Voilà. Ouais. Aujourd'hui en préfecture, mais également sur le site Que chezchoisir.org où on met à disposition des consommateurs une carte interactive pour leur permettre de disposer de ces informations. Une auto-école, par exemple, qui a un taux officiel de réussite à l'examen de 33%, elle a prétendu à nos enquêteurs que ce taux était de 100%. Donc, très clairement, la capacité des consommateurs à pouvoir choisir leur auto-école est quand même limitée.
D'accord, donc il faut aller voir ça. Là, on parlera de gros menteurs, hein, pour l'exemple que vous avez cité. Le troisième constat, j'en reparle avec vous dans un instant. D'abord, reportage avec Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour.
On reparle de tarifs, mais là, il est question du code. Plus de la moitié des auto-écoles, Clara, surfacture l'accompagnement de l'examen au code, ce qui est illégal.
Oui, la nouvelle loi Macron le dit bien, les auto-écoles peuvent demander de l'argent pour le passage du code, pour l'accompagnement, mais pas plus d'une heure de conduite moyenne, pas plus donc de 43 euros. Ça, c'est ce qui n'est pas respecté. Exemple, dans la première auto-école où je suis allée, Sandra vient tout juste de s'inscrire.
Présentation, examen, 54 euros.
Et vous savez que ça, c'est normalement interdit.
Ah non, je ne savais pas. Mais après, pour trouver une date, il faut un délai de 2-3 mois. Alors que là, peut-être que je paye, mais je peux avoir une date tout de suite, je pense.
Voilà, en plus d'avoir payé trop cher, elle se fait avoir, puisque dans cette même loi Macron, l'examen du code peut se dérouler maintenant dans le bureau de poste, par exemple, proche de chez soi. Fini donc l'attente interminable, les 2 ou 3 mois. J'ai ensuite rencontré la gérante d'une autre auto-école.
L'examen final, non, moi je ne reçois plus de frais de présentation à l'examen du code.
Et avant, oui ?
Avant, oui.
Et c'était des frais qui servaient à quoi ?
C'était en fait des frais de dossier et plus ou moins déguisés, qu'on le veuille ou non.
Voilà pour l'aveu, et elle ajoute :
il n'y a pas que pour l'examen du code, il y a pour l'examen de conduite aussi. Quand les élèves ratent leur examen de conduite, on leur répond : on ne vous représentera que dans 6 mois, mais si vous voulez passer dans les 15 jours, vous payez 1500 euros.
Et les élèves, ils paient. Alors chez UFC Que Choisir, Antoine Autier, vous demandez à ce que la réglementation soit plus claire. Elle ne l'est pas aujourd'hui.
Oui, absolument. Il y a aujourd'hui un gros problème au niveau de l'attribution des places d'examen, puisqu'elles appartiennent aux auto-écoles et c'est elles qui décident de qui elles présentent à l'examen. Ça entraîne des effets pervers, notamment des facturations ahurissantes, comme évoqué dans votre reportage. Et ça, c'est tout à fait anormal. C'est pour ça que nous demandons que les auto-écoles sortent complètement du jeu des places d'examen pour que ce soit directement les candidats qui s'inscrivent auprès de la préfecture pour ne plus faire finalement de ces places d'examen un enjeu concurrentiel entre auto-écoles et que ces auto-écoles fassent de l'argent sur ce qu'on peut considérer être un bien public.
Alors Antoine Autier, on a compris, vous demandez à ce que tout ça soit déverrouillé pour qu'il y ait plus de concurrence. Je pensais que le développement des auto-écoles sur Internet ou que la loi Macron avait permis justement de développer la concurrence. Ça n'est pas le cas.
Alors, en théorie, si, mais en pratique, malheureusement, non, en raison d'un élément important qui est la condition d'obtention de l'agrément d'une auto-école, puisque même pour pouvoir exercer en ligne, il faut impérativement disposer d'un local accueillant le public dans chaque département où l'auto-école veut exercer. Alors, on comprend bien que cette obligation n'est plus, en tout cas, en ligne avec le développement du commerce électronique, et nous demandons la suppression de cette obligation pour obtenir l'agrément, ce qui permettra aux consommateurs dans toute la France de pouvoir bénéficier des auto-écoles en ligne et des frais moindres qui leur sont demandés.
Et donc pour les taux de réussite, on peut aller sur votre site, celui du UFC Que Choisir. Merci d'avoir répondu à nos questions. Le portrait d'une scientifique à 13h18 sur France Inter. Bonjour Sophie Becherel.
Bonjour.
Vous êtes scientifique, mais vous n'avez pas la médaille d'or du CNRS. La médaille d'or, elle a été remise ce matin à une mathématicienne, une femme, Claire Voisin.
Avec les mathématiques, on ne s'ennuie jamais, dit Claire Voisin. Cette mathématicienne passionnée et heureuse, reçue à Normalsup à 19 ans, elle vient de rentrer à 54 ans au Collège de France, après avoir reçu toutes les médailles du CNRS, le bronze, l'argent et à présent l'or, c'est dire son talent. Surprise de cette nouvelle récompense, elle se dit extrêmement honorée. Pour moi, c'était réservé aux demi-dieux, la médaille d'or. Une modestie désarmante pour une femme, tout ce qu'il y a de plus normal. Mère de 5 enfants, elle est entrée au CNRS à 24 ans. Elle y a mené sa recherche en géométrie algébrique, le domaine de deux de ses illustres prédécesseurs, Jean-Pierre Serre et Alexandre Grothendieck. Ses travaux, internationalement reconnus, ont été en partie consacrés à la conjecture de Hodge, l'un des 7 problèmes du millénaire, réputé ultra difficile. La conjecture de Hodge jette un pont entre la géométrie algébrique, la topologie et l'analyse complexe, répondant en cela au désir profond de Claire Voisin ne pas jouer l'ultra spécialisation en mathématiques, mais rester ouvert à l'intersection de plusieurs champs. Après avoir donné sa leçon inaugurale au Collège de France, elle entamera son enseignement le 6 octobre.
Elle s'appelle donc Claire Voisin, nouvelle médaille d'or du CNRS.
Le journal de 13h sur France Inter.
C'était il y a 15 ans aujourd'hui, nous étions tous encore sous le choc des attentats du 11 septembre. Et à Toulouse, 21 septembre, 10h17, une explosion ressentie à des dizaines de kilomètres à la ronde. Explosion sur le complexe chimique AZF, 31 morts, 2500 blessés. Bonjour Stéphane Iglesias.
Bonjour Bruno et bonjour à tous.
15 ans plus tard, il y avait évidemment une cérémonie d'hommage à laquelle vous avez assisté ce matin et qui commençait par une sirène.
Oui, à 10h17 précise, les sirènes ont retenti et les noms des 31 victimes ont été égrenés avant une minute de silence. Environ 200 personnes se sont réunies ce matin devant le mémorial installé sur le site de l'ancienne usine AZF. Les troupes commencent 15 ans après à se clairsemer, il faut être clair. Les ex-salariés avaient anticipé l'appel comme chaque année avec une petite cérémonie à 10h. Angélique a perdu pour sa part un proche venu le mauvais jour, au mauvais endroit, c'est-à-dire sur cette ancienne usine AZF.
Mon cousin, Rodolphe, sur le site d'AZF, il passait un entretien d'embauche. Bon, je crois qu'on y pense tous les jours. Ah ben, moi, je travaille à Rangueil, donc j'y passe tous les jours.
Le fait qu'il y ait trois cérémonies, c'est presque dommage.
Bah, on n'est pas d'accord, donc on ne va pas se mélanger. Nous, on aimerait qu'il soit reconnu coupable et qu'on vienne tous les ans quand même ici, mais qu'il soit retenu coupable.
Guy Forest s'est lui longtemps occupé d'une association de victimes et même s'appuyant ce matin sur ses cannes, il a tenu à être là pour tous ceux qui restent traumatisés. Guy Forest.
Et je vois que quand je suis dans le car, je parle avec des personnes qui me disent « Quand il y a une porte claque, j'ai peur. Moi aussi, j'ai peur quand il y a une porte claque. » Là, nous avions mis cette stèle qui est à côté de moi. Là. Et chaque année, comme vous venez de le voir, je suis quand même le seul à venir déposer trois roses. Ça me peine un peu. Parce qu'on devrait avoir un peu de reconnaissance pour toutes ces personnes qui ont laissé la vie dans cette catastrophe. Quand vous avez un souffle de 400 km qui vous passe et que vous voyez vos tuiles et vos fenêtres et votre maison se détruire devant votre nez, 70 ans de travail pour rien.
Voilà pour le souvenir, le recueillement, et on sent la colère, hein, Stéphane. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que juridiquement, 15 ans après cette catastrophe AZF, l'affaire est loin d'être réglée. Il y a déjà eu deux procès et il y en aura un troisième à Paris.
Oui, il se fera quasiment en l'absence de victimes, ce qui fait dire à certaines associations qu'elles sont totalement bâillonnées. Gérard Ratier a perdu son fils lors de la catastrophe d'AZF. Il ne décolère pas que le troisième procès ne soit pas à Toulouse. Gérard Ratier.
Pour ce qui est du troisième procès, alors là, nous l'attendons et nous sommes en train de nous mobiliser de manière à y faire face dans la mesure du possible. C'est un gros problème. Un procès sans victimes, car des victimes, elles y seront au moment de certains temps forts, mais vous comprenez bien que pendant 4 mois, elles ne pourront pas être présentes. Que vaut un procès sans victime, je vous le demande. Que vaut un procès 15 ans après? Que vaut un procès avec un procès où les experts, certains du moins, sont morts et ne seront pas présents? À quoi ressemble ce procès? Est-il nécessaire? L'industriel est responsable. Que peut-il espérer de plus? Dégager sa responsabilité, ça veut dire qu'il n'y ait pas de condamnation. Oui, ça, c'est ce qu'il peut espérer.
Enfin, le directeur de l'ancienne usine AZF, Serge Michelin, était présent comme chaque année ce matin, car cet accident, il ne peut l'oublier, même si évidemment, il estime que le groupe Total et la société Grande Paroisse ne sont pas coupables. Serge Michelin.
C'était Beyrouth à sa pire époque. J'avais jamais imaginé que ça soit possible. Ça s'est produit. Écoutez, vu ma position, tout ne remonte pas, parce que c'est depuis 15 ans, tout le temps, nuit et jour, que je pense à cette histoire. Et c'est effectivement insupportable de ne toujours pas savoir ce qui s'est passé.
Le troisième procès, c'est donc pour la catastrophe d'AZF le 24 janvier à la Cour d'appel de Paris. Les associations de victimes demandent aux collectivités locales des subventions pour financer le déplacement vers la capitale. La ville de Toulouse a déjà répondu que c'est à l'État d'assumer le coût de ce procès parisien.
Stéphane Iglesias en direct de Toulouse. À Paris, la piétonnisation des voies sur berge rive droite va-t-elle améliorer la qualité de l'air? C'est l'argument avancé par la mairie face aux nombreuses critiques de cet aménagement urbain. Et pour appuyer cet argument, Anne Hidalgo lance en ce mercredi, jour national de la qualité de l'air en France, une campagne de mesures. Bonjour Hélène Chevalier.
Bonjour.
Parmi les labos qui vont travailler sur le sujet, il y a le laboratoire central de surveillance de la qualité de l'air. Il ouvre rarement ses portes et c'était le cas pour vous ce matin, Hélène.
Oui, c'est dans ce laboratoire que sont effectués les étalonnages de tous les capteurs de pollution utilisés par Air Paris, par exemple, mais aussi sur toute la France. Au total, il y en a 2600. C'est aussi ici que l'on recherche les nouvelles pollution, exemple dans le laboratoire de François Guélevrel. Ce chercheur tente de mesurer la présence dans l'air de nanoparticules via une sorte de gros checker.
Vous avez ici une nanopoudre qui est insérée dans ce qu'on appelle un vortex shaker. On va venir secouer la poudre et créer un jet d'air à la surface qui va remettre en suspension les nanoparticules de cette poudre. Et derrière, on va venir mesurer en temps réel et a posteriori les distributions granulométriques de ces particules remises en suspension.
Et là, en l'occurrence, il s'agit de nanoparticules de dioxyde de titane. On en trouve partout, utilisées pour rendre plus blanc certains camemberts, yaourts, crème solaire ou peinture. Des polluants pas encore encadrés par une législation, mais dont on sait qu'ils ont un impact sur notre santé. Thomas Grenon est le directeur général du Laboratoire national de métrologie et d'essais.
Une récente étude a montré qu'on trouvait des traces de nanoparticules dans le cerveau, nanoparticules qui étaient sans doute passées par le nerf olfactif et pouvaient contribuer à l'apparition de maladies neurodégénératives.
Et le but, c'est pour le moment de déterminer ce qu'il faut mesurer. On est vraiment au tout début de la recherche sur ces polluants dits émergents.
Hélène Chevalier, morte et enterrée la trêve en Syrie, des dizaines de frappes aériennes sur Alep cette nuit. Ce qui a scellé le sort de cette trêve, c'est cette frappe lundi contre un convoi humanitaire, 20 morts, dont un responsable du Croissant Rouge. Les Américains accusent clairement la Russie. Bonjour Marc Crépin.
La Russie condamne avec indignation les accusations des dirigeants occidentaux. Les porte-parole des deux ministères concernés ici à Moscou, Affaires étrangères et Défense, sont catégoriques. Nous n'avons rien à voir avec cette situation, a dit Maria Sakharova, tandis que le général Konachenkov assurait qu'un drone russe avait transmis une vidéo qui, selon lui, prouve que l'armée russe n'est pas impliquée. Il affirme qu'on y voit un pick-up occupé par des terroristes longer le convoi humanitaire touché. Et il sous-entend ainsi que les rebelles anti-Assad seraient responsables. Évidemment, c'est un peu léger, mais lorsque les Américains affirment avoir identifié deux Sukhoi 24, ils ne précisent pas s'ils étaient russes ou syriens. Pour Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe, son pays est innocent.
Notre aviation ne travaillait pas dans ce secteur-là. Et l'aviation syrienne ne pouvait pas y être parce que le convoi a été attaqué de nuit et l'aviation syrienne n'a pas les équipements techniques nécessaires pour cela.
On peut ajouter que beaucoup de chasseurs-bombardiers russes sont équipés de cette technologie pour des opérations sans visibilité. Moscou, Marc Crépin, France Inter.
Voilà, vous l'aurez compris, la version russe de cette affaire qui a scellé la trêve des combats en Syrie. Mercredi, jour des sorties cinéma. Bonjour Eva Bettan.
Bonjour.
Et chaque mercredi, dans le journal de 13h, le choix d'Eva pour le dernier Xavier Dolan cette semaine, Eva.
Oui, qui s'appelle juste La fin du monde. Oui. Alors on pourrait dire que c'est la rencontre de deux thèmes connus, le retour de l'enfant prodigue et les réunions d'une famille dysfonctionnelle. Mais il faut ajouter deux choses. C'est à partir d'un texte de Lagarce.
Oui.
Et c'est une variation, comme on dirait, d'un musicien faite par Dolan, qui l'amène à son cinéma. Notamment dans la manière de rendre tout incandescent, comme s'il prenait les gens dans une période où ils sont en feu, en quelque sorte. Je ne veux pas trahir de suspense, c'est dit dès le début. Dans l'avion, un homme arrive et il voyage et il dit « Je retourne voir ma famille, je l'ai quitté voilà 12 ans, c'est un écrivain devenu connu, et je viens leur annoncer ma mort. » Il y aura plusieurs lectures de ce film, selon le moment, selon votre état d'esprit. Je vous en propose une parmi d'autres, qui est « Nous avons un mort en mouvement face à des vivants immobiles ». Lui, il a vécu. On le plaint parce qu'il nous dit qu'il va mourir, mais au moins, il a eu une vie. Et il vient voir des gens qui sont restés dans leur coin, sans le truc péjoratif, dire dans leur trou, qui n'ont pas bougé, qui n'ont pas évolué, qui continuent à se chamailler entre eux comme si c'était des vieux gamins, alors qu'ils ont 40 ans, ou 30 ans, ou 65 ans. Et il y a ce côté quasiment incestueux d'une famille. Et les deux sont bouleversants. Parce qu'il y a des vies ratées, et il y a une vie réussie en quelque sorte qui va s'achever. Et il y a ce que les gens ne se disent pas. Il y a aussi, ils tirent des choses magnifiques des acteurs, ils sont tous remarquables. Et on se dit toujours, alors on n'arrête pas de dire que Xavier Dolan est jeune. Oui, il est jeune. Mais quand on est des acteurs, et qu'on est dirigé par Xavier Dolan, est-ce qu'on sent qu'il est jeune? J'ai posé cette question à Léa Seydoux et Nathalie Baye.
Il n'a pas d'âge, Xavier. On n'a pas du tout conscience de son âge qu'on est avec quelqu'un de...
C'est-à-dire qu'il est très jeune, mais il est tellement intelligent.
Ouais.
Il est tellement brillant que ce que dit Léa est tout à fait juste. Il n'a pas d'âge. Et je pense même que par moment, ça doit être difficile à vivre pour lui. Parce que c'est un jeune homme. Moi, je me souviens quand on avait tourné Laurence Anyways, on avait fêté ses 23 ans. Là, il en a à peine 27. Et il est malgré tout... pratiquement tout le temps avec des gens beaucoup plus âgés que lui. Or, il a besoin d'être aussi avec des gens de son âge. Il y a quelque chose de bouleversant là-dedans.
27 ans, oui.
Ouais, bouleversant. C'est pas commode, hein, mais Lagarce n'était pas commode. Dolan ne veut pas être commode. C'est du vif, c'est du à vif et c'est remarquable.
Et ça s'appelle donc juste La fin du monde au cinéma également. Il y a ce blues bobo bien accueilli par la critique, Brooklyn Village, et puis nettement moins bien accueilli, l'amitié Cézanne Zola. Ça s'appelle Cézanne et moi. C'est la fin de ce journal.